Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le viseur, donc de souvenirs, de récits d'opérations, de récits de vie militaire en tout cas, aujourd'hui en partenariat avec l'École de Guerre, j'ai le plaisir de recevoir le commandant Vianney, donc bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chef de bataillon dans l'armée de terre. Cette année, évidemment, à l'École de Guerre, et vous venez nous raconter un épisode qui commence à remonter un peu, qui remonte à une décennie, je crois. Alors, peut-être placez-nous le lieu et la date.
Alors, il s'agit de l'Afghanistan en 2010, donc il y a 11 ans. Je suis chef de section, donc lieutenant. J'ai sous mes ordres une trentaine de marsouins, puisque je suis issu des troupes de marine. Et dans les troupes de marine, on parle de marsouins. Un héritage de l'histoire. Et je suis déployé depuis le printemps 2010 avec ma section, mais également avec mon régiment, donc à peu près 600 à 700 hommes, dans une vallée que l'on connaissait bien il y a quelques années, la vallée de la Kapisa, donc dans l'est de l'Afghanistan, dans une région assez chaude, si on peut dire, chaude par le climat et puis par l'adversité, beaucoup de talibans. Et donc, l'épisode que je souhaite partager se déroule au mois d'août 2010 à peu près. C'est une journée très particulière que je pourrais baptiser comme une journée noire, un lundi noir, en vallée de Bedraou, donc la vallée dans laquelle se situe l'action.
Alors, peut-être replacez-nous, qu'est-ce que vous faisiez, c'est-à-dire en tant que marsouin, qu'est-ce que vous faisiez au quotidien quoi? Vous faisiez des patrouilles, vous contrôliez des vallées, c'était quoi vos rôles, vos tâches quoi, au quotidien?
Donc en tant que chef de section, j'ai sous mes ordres 30 marsouins. Je suis sous le commandement d'un capitaine dans une compagnie d'à peu près 150 marsouins également. Et nos missions sont d'appuyer l'armée locale, l'armée afghane, pour reprendre le contrôle de zones qui sont tombées sous la coupe des talibans. Et donc on mène des actions de contrôle de zones, de fouilles, de recherches, d'appui à l'armée locale pour mener des rencontres avec les autorités, tout cela pour réinstaurer l'autorité de l'État dans des zones où cette autorité a été battue en brèche par les talibans qui menacent le pouvoir central à Kaboul.
Et alors ce lundi, donc, puisque on a compris que c'était un lundi, le jour dont vous nous parliez, c'est quoi la mission du jour?
Alors la mission du jour, c'est le contrôle d'une zone, une zone pas très large, mais il faut savoir que dans les vallées...
C'est quoi pas très large, hein?
C'est 500 mètres sur 500 mètres, mais c'est une zone qui est impénétrable, qui peut s'apparenter à ce qu'on connaît, le bocage, comme le bocage normand ou comme le bocage vendéen, donc très, très touffu, beaucoup de vergers, beaucoup d'arbres, et le régiment, donc une partie du régiment, à peu près 400 hommes, a pour mission de contrôler une zone pour y trouver de l'armement. Donc très simplement, elle effectue un carré avec trois côtés tournés vers l'extérieur et elle va ensuite fouiller l'intérieur de ce carré pour y trouver ce qu'elle y recherche.
Et donc c'est-à-dire vous sécurisez le périmètre de cette zone et à l'intérieur, il y a le quatrième carré qui avance pour fouiller quoi. Le quatrième bord du carré qui avance pour fouiller quoi.
Voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est une sorte de cordon, on fait une zone hermétique et à partir de là, on recherche l'armement et les adversaires, les ennemis qui sont dans cette zone. Donc c'est une mission qui paraît très simple mais qui dans son exécution est assez compliquée, qui demande de la planification et beaucoup d'hommes. Pour l'occasion, donc, avec ma compagnie, avec une centaine d'hommes, on est descendu un peu plus au sud sur une base qui s'appelle la base de Tagab. Et nous y rejoignons ici nos autres camarades, donc j'y retrouve pas mal d'amis, des lieutenants comme moi, avec qui certains que je connais depuis Saint-Cyr, d'autres que je connais depuis un an, donc avec qui je suis assez proche. Et nous découvrons la mission qui nous est donnée.
Mais c'est une mission pour combien de gens, ça ?
400 hommes à peu près.
400 hommes pour un truc d'un carré de 500 mètres de côté.
Alors il faut, oui effectivement, ça paraît beaucoup. Il y a ceux qui appuient avec de l'artillerie, des canons, ceux qui observent et puis ceux qui sont dans la zone verte, dans ce bocage, hein, comme je vous ai dit. Et donc au final, on a à peu près 400 hommes, dont peut-être 250 qui sont déployés, eux, dans la verte, comme on dit, dans la green zone, la zone dangereuse. Et donc ça fait pas mal de monde sur le terrain.
D'accord. Et alors, du coup, ce jour-là, donc, vous mettez... Alors, vous, puisque vous commandiez 30 personnes, vous n'êtes pas à l'échelon du dessus, mais vous êtes où, d'ailleurs, dans ce dispositif, quoi ?
Alors, moi, j'ai une mission bien particulière, puisque je suis... On me donne la mission d'être en force de réaction rapide. Je suis l'élément d'alerte qui va agir sur commande en fonction de l'urgence. Donc, c'est une journée qui commence très tôt. Alors, puisque j'ai pas mal de mal à dormir cette nuit-là, on a déjà pressenti la veille que la mission va être compliquée parce qu'elle se situe dans une zone qui est une zone sanctuaire où on l'ouvre très peu.
Alors, comment ça se sent ? C'est-à-dire, est-ce que ça se sent parce que ça se sait, parce que c'est une sorte de bruit qui court ? Est-ce que ça se sent parce qu'au briefing, vous sentez qu'on vous parle un peu différemment ? Est-ce que ça se sent parce que vous sentez l'ambiance de ces derniers jours ? Enfin, comment est-ce que ça se... Pourquoi est-ce que, à quoi est-ce que vous le sentez, quoi ?
Alors, en août 2010, ça fait 3 mois que le régiment est sur zone. Chacun d'entre nous, les cadres, les lieutenants, les capitaines, ont une bonne connaissance du terrain, et les sous-officiers, les marsons également. Il y a des zones où on va très peu, des zones où il y a pas mal d'incidents qui sont répertoriés à chaque fois qu'on s'y rend. Et cette zone, donc la vallée de Bédraou, est une zone vraiment charnière. Elle est très peu visitée, très peu reconnue. Et donc on sait pertinemment que c'est dans cette zone qu'on appelle une zone sanctuaire que certains des groupes armés sont les plus hostiles et les plus virulents. On ne peut pas laisser cette zone en permanence inoccupée. Il faut y aller de temps en temps. Et au bout de 3 mois, les chefs ont obtenu la validation d'une mission dans cette zone. Parce qu'il faut y aller de temps en temps, il faut montrer la force et il faut aussi dissuader les talibans d'occuper ces zones-là pour rançonner la population ou pour installer, pour se rapprocher de notre base.
Donc vous savez que vous n'allez pas seulement chercher, vous savez que vous allez trouver, quoi.
Oui, on le sait, on le sait, on en a parlé entre lieutenants, on le sait, les renseignements nous donnent les volumes de talibans, les différents groupes qui sont installés. Donc on sait qu'on va avoir ce qu'on appelle du contact, hein, et on y est préparé. Et moi, je dors mal, je me lève très tôt.
Mais du coup, est-ce que c'est la première fois que vous aviez du contact ? Mais surtout, est-ce que c'est la première fois que vous saviez que vous alliez avoir du contact ?
Non, au bout de 3 mois, on avait quasiment tous eu notre baptême du feu dès le mois de juin, puisque en Afghanistan, le mois de juin est un peu un mois de reprise des hostilités. Et donc on avait eu chacun nos expériences, ma section, ma compagnie, donc avec des blessés, des prises à partie à longue distance, à très courte portée. Moi-même, j'avais eu un blessé à quelques centimètres de ma position. Donc c'est pas quelque chose qui nous faisait peur, mais voilà, on était prêts. Au bout de 3 mois, on a quand même une certaine expérience. Mais là, on sait que ça va être costaud, on en a parlé ensemble, donc on est prêt et voilà, il n'y a pas d'appréhension, il y a un petit peu de... Enfin, il y a surtout du stress.
Oui, vous êtes nerveux, mais concentré, quoi.
Voilà, on est concentré.
Et alors, si ça vous implique, la force de réaction rapide, c'est donc qu'il y a eu contact et qu'on vous a envoyé sur un point chaud, c'est ça ?
Dès 3-4 heures du matin, 4 heures peut-être, je suis en écoute radio parce que j'arrive pas à dormir. Et j'entends qu'il y a des premiers tirs, des tirs au canon, des tirs à la mitrailleuse lourde.
Attendez, parce que l'opération se passe de nuit ?
La mise en place de l'opération s'effectue de nuit, comme très souvent, donc très tôt, pour ne pas éveiller l'attention et pour que la fouille puisse se dérouler au lever du jour.
Le cordon, vous le mettez en place de nuit et ensuite le ratissage va se faire pendant le jour, c'est ça ?
Exactement. Le cordon est mis en place de nuit, de façon assez discrète. Puis l'opération de fouille se déroule, disons, de 6-7 heures à, normalement, à 10 heures maximum. Là, rien ne se passe comme prévu. Dès 4-5 heures du matin, je ne sais plus trop, les premiers tirs se font entendre, ce qui est assez rare de nuit. Et très rapidement après, je suis appelé à la radio pour aller évacuer 3 blessés. Alors, je rameute mes troupes qui sont...
C'est-à-dire, c'est avant l'heure où vous étiez censé entrer en action, quoi.
Oui, oui, je devais... Moi, j'étais pas censé entrer en action tout de suite, puisque j'étais en force de réaction rapide à compter une certaine heure. Donc, c'était à peu près peut-être 5h30. Donc là, le temps s'accélère. Et je réunis mes véhicules de l'avant blindé, les VAB, mes 3 VAB. J'y fais entrer mes personnels en catastrophe. Et nous partons extraire 3 blessés. 3 blessés, dont un grave, que nous récupérons après quelques péripéties, puisque la zone ne nous est pas connue et que nous sommes partis un peu en catastrophe. Et donc, je charge ces blessés dans mes véhicules pour les ramener sur base. Et à cette occasion, je salue un de mes camarades qui s'appelle qui est Lorenzo. C'est un bon camarade que je connais depuis plus de 2 ans. Je ne sais pas qu'à cette occasion-là, c'est la dernière fois que je salue. Un peu plus tard, dans la matinée, ce que je vous raconterai après, il va être touché à son tour. Et donc, je le salue. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais voilà, c'est un premier moment fort de la journée.
A posteriori, vous y repensez. Oui. Sur le moment, c'est pas fort du...
Sur le moment, moi, je suis dans l'adrénaline de l'action. Je dois ramener ces 3 blessés. Je me dis que la journée a quand même commencé assez fort. Et voilà, je ramène mes blessés. Et dans la foulée, je me remets en position. Donc, on m'a dit de me mettre en position en entrée de vallée, sur un pont, au plus près du dispositif. La journée, là, est censée... se continuer normalement, donc à compter de 6-7 heures. La fouille est en place et c'est là que ça va continuer à s'accélérer.
Donc là, vous prenez votre position là où vous êtes pour le coup censé être, enfin où c'était prévu que vous soyez. Et donc j'imagine que les tirs ne s'arrêtent pas, ont plutôt tendance à augmenter.
Alors on a eu étonnamment cette première explosion de violence se calme. Il y a une petite phase de décrue, donc sans aucun contact.
Et sans aucun contact, c'est même pas un tir de temps. Enfin, est-ce qu'il y a un tir de temps en temps comme ça, histoire d'eux, ou est-ce que même, enfin, je sais pas, j'imagine d'un point de vue sonore, il doit y avoir un moment où la vallée s'apaise, quoi.
Oui, ce premier contact qu'on a eu n'est pas représentatif de ce qui se passe. C'est peut-être une prise à partie de façon aléatoire. Ce n'est pas le gros des forces. Donc la fouille se poursuit et en fait au moment du désengagement, c'est traditionnellement comme de cette façon que les talibans démarraient leurs assauts, au moment où on est le plus vulnérable, quand chacun commence à réunir ses affaires pour désengager. Au moment du désengagement, la prise à partie est très intense, donc des nombreux tirs un peu de...
Donc, le carré a été fouillé, vous n'avez rien trouvé de particulier?
Le carré a été fouillé, peut-être quelques armements ont été trouvés, mais rien de déterminant. Et effectivement, les côtés vont se désengager les uns à la suite des autres.
Donc le truc vient de l'extérieur.
Oui,
l'attaque vient de... C'est pas des éléments que vous avez trouvés dans le carré pose problème. C'est un assaut depuis l'extérieur sur vous qui êtes donc au fond de vallée. Et donc les talibans vous attaquent depuis les bords de la vallée, quoi. C'est ça?
Alors depuis la vallée, ce n'est pas depuis les hauteurs, mais vraiment depuis le niveau du sol, depuis la zone verte. Donc impossible de les voir. Ils se sont positionnés très près de notre dispositif, pas du mien, parce que moi je suis un petit peu à l'intérieur du carré. Et lors du désengagement, le dispositif est bien en place de la part des talibans. Il y a une prise à partie simultanée et multiple, de très nombreux tirs qui vont en fait geler le dispositif français. Et là, c'est très impressionnant parce que, bon, et d'une, on entend de nombreux tirs, mais ça, on est habitué. Mais on entend également des cris, les cris des talibans qui montent à l'assaut en criant « Allahu Akbar ». Donc on l'entend, moi je l'entends à quelques, je suis à 400 mètres peut-être, on savait que les plus fanatiques le faisaient, on ne l'avait jamais entendu. Donc là c'est assez impressionnant, ça dure, j'ai plus tellement de notion du temps, mais ça dure quelques temps.
Et genre... quand même, c'est quoi, c'est 5 minutes, 10 minutes,
non,
une heure ?
c'est une heure, au moins une heure. Et j'entends successivement sur le réseau radio que je suis de nouveau sollicité pour 2 blessés. Donc je sens à cette demande que les 2 blessés doivent être graves, puisque normalement on procède à une évacuation par hélicoptère si les blessés sont évacuables. Si on me demande de les évacuer par la voie routière ou même sans urgence, soit ils sont très légers, et dans ce cas-là, on ne les évacue pas, soit c'est très grave.
En même temps, un hélicoptère, faire venir un hélicoptère dans la vallée, ça serait... Enfin, bon, j'en sais rien.
Jamais... Oui, c'est, effectivement, c'est dangereux, mais en fonction de, ouais, l'urgence vitale, c'est, ça peut se faire. Ça peut se faire un peu en arrière, mais ça peut se faire. Là, on ne demande même pas d'hélico.
Donc, vous
donc je me rends sur, enfin, j'envoie mes véhicules sur place, pas très loin, 200 mètres.
Vous êtes véhiculé, oui.
On est véhiculé, on est débarqué sur notre pont et sur notre, dans notre zone, mais on a les véhicules pas loin, donc je les envoie sur place. J'ai deux brancards qui arrivent, recouverts, donc on comprend tout de suite que ce ne sont plus deux blessés, mais bien deux décédés. On n'ose pas demander, on demande pas l'identité, on ne révèle jamais l'identité à la radio. On les charge, on les amène sur base. Et voilà, on a tout à fait compris ce qui s'était passé, hein, c'est deux décédés. Et on reprend notre dispositif. Les combats ont quasiment cessé. L'artillerie a fait son office, de nombreux tirs mortiers, des tirs César, donc d'un canon qui porte dans la profondeur, ont permis aux dispositifs, aux Français, de reprendre l'ascendant et de dissuader les talibans de venir sur nos positions. Pour ma part, j'ai été... concentré sur cette évacuation, et c'est dans le désengagement du reste, quand je croise mes camarades qui, eux, se replient au fur et à mesure, que j'apprends la nouvelle. Donc un des deux décédés est un lieutenant, le lieutenant que j'ai croisé le matin, Lorenzo, qui est décédé en pleine action, en fait, en tentant de se désengager à la grenade. Donc une action à très courte portée. Voilà, je suis assez marqué par cette nouvelle, puisque c'est un camarade, on se connaît très bien. Et voilà, et donc je l'apprends, ça ne m'empêche pas de me désengager à mon tour et de rejoindre la base en début de...
Et à ces moments-là, vous faites, donc on a bien compris que le gros de l'attaque était passé, a été dissuadé, mais vous faites quand même tirer dessus, enfin vous êtes encore sous le feu ou pas, ou ça s'est arrêté?
Alors, les prises à partie ont complètement cessé. Nos adversaires, les talibans, ont sans doute compris que le morceau était trop gros et de toute façon, ils ne cherchaient pas à causer de nombreuses pertes. Je pense qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils ont bien vu les personnels français tomber, et c'est peut-être l'effet qu'ils souhaitaient obtenir. Ils savent pertinemment que les pertes vont avoir un écho considérable, deux pertes le même jour. C'est de nature à passer dans les médias et à avoir un écho assez retentissant. Donc les combats ont cessé.
Ils cherchaient à marquer leur terrain, mais comme l'armée française, hein, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Chacun cherche l'armée française cherchait à imposer sa présence et les talibans cherchaient à dissuader cette présence.
Quoi. Oui, les Français ont une mission bien particulière. Les talibans, eux, cherchent effectivement à causer, je pense, d'abord des pertes. Et pour montrer qu'ils sont les maîtres sur leur terrain, et surtout dans cette vallée qui est la leur, depuis très longtemps, et de laquelle ils n'ont pas envie d'être chassés.
Et alors, donc vous vous êtes retrouvé proche, très proche, mais à évacuer des blessés, donc à intervenir. J'imagine donc que vous n'avez pas autant les unités concernées ont. Peut-être été évacué, rapatrié, enfin je sais pas comment ça a été géré, autant vous, j'imagine que vous êtes resté encore sur place après, les missions ont continué.
Alors non, la mission était sur un créneau de temps assez restreint, donc une petite journée, hein, de très tôt le matin au milieu d'après-midi. Donc les troupes qui ont été engagées, qui ont été au contact, elles ont terminé leur désengagement, sont rentrées sur base. Une fois que tout le monde est rentré, à mon tour, je me désengage et nous rejoignons ce qu'on appelle la FOB, hein, pour récupérer.
Non, je voulais dire même plus généralement au sein de la mission en Afghanistan, au sein du déploiement. Vous êtes resté encore longtemps après ?
Oui, la mission durait 6 mois au total. Donc il nous restait 3 mois encore sur base avec de nombreuses missions de ce type, c'est-à-dire des missions de 12 heures, 24 heures, 36 heures.
Et comment est-ce que... Comment est-ce que ça vous accompagne sur... c'est-à-dire quand une mission comme ça se passe extrêmement mal, j'imagine qu'au point de vue tactique, il y a un retour, une analyse, etc. Mais même personnellement, humainement, puisque vous nous avez dit que vous connaissiez en plus un des décédés, comment ça change votre perception de ces missions dans les semaines et les mois qui suivent ?
Pour cette mission, on est préparé. On est préparé militairement, on est préparé psychologiquement. Quasiment un an en avance. Donc pour l'Afghanistan, les missions étaient vraiment On avait une préparation qui était longue. Donc on sait pertinemment que ce genre d'événement peut arriver. La mort, la donner, mais aussi la recevoir, c'est quelque chose pour laquelle on est préparé. C'est même inscrit dans notre statut militaire. C'est ce qu'on appelle la spécificité militaire. Donc on y est préparé. Et malheureusement, les morts, les blessés ne remettent pas en cause la mission. Donc nous, en tant que cadre, on doit accompagner et donner du sens à cette mort auprès de nos soldats. C'est notre rôle de cadre, c'est pour cela qu'on est formé en école. Et on leur donne du sens, on leur explique pour que la mission continue et que les trois derniers mois ne soient pas, que le moral de la troupe ne soit pas atteint définitivement. Et heureusement, ce n'était pas le cas.
Bien sûr, mais ça c'est évidemment la mission et votre rôle. Mais même, je veux dire, d'un point de vue personnel, enfin, quand vous vous retrouvez sur une mission comme ça après, est-ce que vous y pensez un peu différemment parce que vous avez vu comment ça pouvait partir en vrille très mal? C'est-à-dire, est-ce que le précédent du fait que ça soit mal passé vous fait réfléchir différemment à ces genres de... Enfin, c'est ce qui est le propos de l'expérience, hein, soit dit. Enfin, ce serait normal. Mais est-ce que ça vous fait réfléchir différemment quand vous êtes dans des situations similaires?
On est forcément extrêmement marqué par ces situations, par un mort au combat. C'est extrêmement marquant et évidemment, ça modifie notre perception des choses et notre comportement pour la suite. On est plus prudent, peut-être un peu, même pas apeuré, mais voilà, un peu plus sensible à la protection de nos troupes, aux conditions de déploiement. Et on a vraiment envie, du coup, que les missions suivantes se passent bien, ou au moins on n'a pas forcément envie de prendre des risques inutiles, même si on n'en prenait pas avant. Mais là, c'est effectivement le fait de voir des blessés, de voir des décédés.
Il y a un moment où il faut se regrouper un peu.
Oui, il faut se regrouper. Déjà, il faut en parler. C'est tout le sens de l'esprit de corps dans nos unités. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, on va en parler, on va permettre à ceux qui...
Quand est-ce que vous en parlez, par exemple, à la fin de cette journée, à quel moment vous en parlez? C'est-à-dire vous posez les affaires, vous en parlez tout de suite, vous prenez une douche, vous allez faire autre chose?
Ça dépend vraiment de chacun. Généralement, on en parle assez rapidement. Parce qu'on a beaucoup de moments de cohésion, ou même des moments en groupe, en section. Et donc à ces moments-là, dès le soir, on va en parler entre officiers ou avec nos hommes pour refaire un peu l'action et puis dédramatiser, essayer de se raconter l'action pour crever l'abcès et pour pas qu'on garde ça à l'intérieur et que cela génère une peur ou un traumatisme qui impacte notre efficacité opérationnelle. Donc on en parle très vite et puis on passe un peu dessus parce que chaque jour apporte sa mission et qu'on peut pas se permettre de ruminer ça. Donc on intègre en accéléré cet épisode dramatique et c'est peut-être beaucoup plus tard, 6 mois, 1 an après, qu'on va le réaliser. Pour certains, ça peut prendre la forme d'un syndrome post-traumatique, avec des difficultés à retourner au combat ou même sur le terrain. Pour d'autres, ça peut prendre d'autres formes. Mais je dirais que la réalité de ce fait va arriver peut-être un peu plus tard, une fois qu'on sera sorti du cadre de la mission.
Très bien. Merci beaucoup, commandant Vianney.
Je vous en prie.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.